Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du lundi 11 novembre 2024. Voici le sommaire. 15 militaires tchadiens tués dans des combats avec des djihadistes de Boko Haram dans le lac Tchad. N'Djamena dénonce l'inaction de la force militaire constituée avec les pays voisins.
À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien.
Reportage à suivre dans la partie magazine, en deuxième partie de cette édition. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré dimanche à Abidjan l'ambassadeur de France. Un échange inédit entre un officiel français et l'ancien chef de l'État depuis sa chute en 2010. Le président élu des États-Unis Donald Trump s'est entretenu jeudi avec le président russe Vladimir Poutine et lui aurait demandé de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Pendant ce temps, l'administration Biden annonce qu'elle dépensera les 6 milliards de dollars restants dédiés à l'Ukraine avant l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nathalie Barge et les sports présentés par Élisée Ongpatine. Mais pour commencer, voici le journal. Plusieurs militaires tchadiens ont été tués et d'autres blessés lors d'un accrochage samedi entre l'armée et les djihadistes de Boko Haram. C'est ce qu'a indiqué dimanche le président Mahamat Idriss Déby Itno sur sa page Facebook. Les précisions avec Gabi Dorsil.
Je présente mes sincères condoléances aux familles de martyrs tombés en défendant la patrie lors de cet accrochage et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, a dit le président tchadien, sans donner plus de détails sur le bilan. Fin octobre, une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base militaire de la région du lac Tchad avait fait une quarantaine de morts selon les autorités tchadiennes. En riposte, le président Déby avait personnellement lancé une opération baptisée Haskanit qu'il a dirigée depuis la province du lac Tchad pendant deux semaines avant de revenir à N'Djamena selon la présidence. Un communiqué de l'état-major de l'armée samedi a fait savoir qu'un premier accrochage a eu lieu ce jour et après quelques heures de combat, plusieurs éléments terroristes ont été neutralisés. Il précisait qu'un bilan serait communiqué ultérieurement. Samedi dans la soirée, plusieurs médias locaux relayaient des listes de noms de militaires tchadiens, pour certains haut gradés, tués ou blessés.
Les forces de défense et de sécurité déplorent 15 militaires tombés sur le champ d'honneur et 32 blessés qui sont tous évacués à N'Djamena pour des soins appropriés, a indiqué dimanche soir dans un communiqué Issachar Hachek Shanan, général de brigade et porte-parole de l'armée tchadienne. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo a rencontré hier dimanche à Abidjan l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard. La rencontre a duré plus de deux heures avec des échanges riches, sans tabou, de manière directe et spontanée dans une atmosphère chaleureuse, a indiqué une source diplomatique française. Cela met fin à un long silence, a-t-elle ajouté. La rencontre a été cordiale et s'est bien passée, a confirmé Habiba Touré, la porte-parole du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. La formation de M. Gbagbo sans faire plus de commentaires. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de parler à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, à moins d'un an de la présidentielle, a détaillé la source diplomatique française, qui rappelle que M. Béliard a également rencontré Tidiane Thiam, autre opposant de premier plan. Au Burkina Faso, une enquête a été ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de mutilation d'un corps humain par des individus vêtus de tenues militaires des Forces armées nationales, a indiqué l'état-major dimanche dans un communiqué. Les services compétents ont été saisis afin de déterminer l'authenticité et l'origine de cette vidéo, ainsi que les identités des personnes concernées afin qu'elles répondent de leurs actes si toutefois les faits sont avérés, indique le communiqué. En juillet dernier, l'armée burkinabée avait déjà condamné des actes de mutilation de cadavres vus dans des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux. Les Mauriciens attendent ce lundi les résultats des élections législatives pour savoir qui va gouverner leur nation au lendemain d'une campagne acharnée et d'un vote sur fond d'inquiétude économique et démocratique. Rosine Mounezero.
Environ 1 million d'électeurs étaient inscrits pour ces 12e législatives de l'histoire de la République où le leader de l'alliance qui obtient la majorité devient premier ministre. Deux blocs principaux se sont affrontés. L'alliance menée par le mouvement socialiste militant MSM de Pravin Kumar Jonath, 62 ans, et l'alliance du changement menée par Navin Ramgoolam, chef du parti travailliste âgé de 77 ans. Les deux hommes ont par ailleurs affronté une alliance qui se présente comme une alternative avec le slogan « Ni Navin ni Pravind » et critique la corruption et le népotisme dans l'archipel. Un total de 891 candidats sont en lice. Parmi ceux-ci, 62 seront élus députés à l'issue du scrutin. 8 sièges sont alloués par la commission de surveillance électorale pour assurer l'équilibre dans la représentation communautaire. Le taux de participation était de 70% à 17h locale, une heure avant la fermeture des bureaux de vote, a indiqué la commission électorale, qui n'a pas donné de comparaison avec le scrutin de 2019. Les résultats sont attendus aujourd'hui, lundi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'est entretenu jeudi avec le président russe Vladimir Poutine, a rapporté hier dimanche le quotidien américain Washington Post. Ils ont discuté de l'objectif de paix sur le continent européen et Donald Trump a dit espérer pouvoir avoir des conversations de suivi afin de discuter de la résolution de la guerre en Ukraine bientôt, selon les sources anonymes du quotidien américain. L'entourage de Donald Trump n'a pas confirmé ces informations. Donald Trump, qui fera son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, a régulièrement affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en un jour, sans détailler comment il s'y prendrait. Les dossiers de politique étrangère seront au menu de la rencontre entre Joe Biden et Donald Trump, prévue dans le bureau ovale mercredi pour amorcer la passation de pouvoir. Les États-Unis dépenseront les 6 milliards de dollars restants dédiés à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est ce qu'a affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Jean-Roger Billon.
Les dossiers de politique étrangère seront au menu de la rencontre entre Joe Biden et Donald Trump, prévue dans le bureau ovale mercredi, pour amorcer la passation de pouvoir. Le président aura l'opportunité d'expliquer au président Trump comment il voit les choses, où elles en sont, et de discuter avec lui de la manière dont il envisage d'aborder ces questions lorsqu'il prendra ses fonctions, a déclaré Jake Sullivan dimanche à la chaîne de télévision américaine CBS. L'un des objectifs de l'administration Biden dans les mois qui lui restent sera de placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible sur le champ de bataille pour qu'elle soit dans la plus forte possible à la table des négociations, a expliqué Jake Sullivan. De son côté, Donald Trump a réitéré pouvoir mettre fin à la guerre en un jour, sans jamais détailler comment il s'y prendrait, mais probablement dans le cadre d'un accord qui exigerait que Kiev cède à Moscou une partie de son territoire. Le Kremlin a estimé dimanche que le républicain avait envoyé pendant la campagne des signaux positifs concernant le conflit, puisqu'il a évoqué une possible paix et n'a pas montré de volonté d'infliger une défaite stratégique à la Russie.
Des dirigeants arabes et musulmans ont commencé à arriver dimanche en Arabie Saoudite pour un sommet qui sera consacré à partir de ce lundi aux guerres que mène Israël dans la bande de Gaza et au Liban. Claire Morin-Gibourg.
Lors de ce sommet conjoint de la Ligue arabe, organisation panarabe réunissant 22 pays, et de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, organisation panislamique regroupant plus de 50 États musulmans, les participants discuteront de ce que l'agence officielle saoudienne SPA appelle l'agression israélienne continue dans les territoires palestiniens et au Liban. Ils échangeront aussi sur les développements régionaux, toujours selon l'agence. Le ministère saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, avait appelé à la tenue de ce sommet fin octobre durant une réunion à Riyad d'une nouvelle alliance internationale visant à encourager la création d'un État palestinien. L'OCI et la Ligue arabe incluent des pays qui reconnaissent Israël et d'autres fermement opposés à son intégration régionale. La réunion de ce lundi survient un an après un sommet similaire à Riyad de la Ligue arabe, basé au Caire, et de l'OCI, basé à Jeddah, lors duquel les dirigeants arabes et musulmans avaient condamné les actions des forces israéliennes à Gaza. Le sommet de l'année dernière a été marqué par des divergences sur des mesures telles que la rupture des liens économiques et diplomatiques avec Israël.
Israël a mené des frappes dimanche dans la bande de Gaza et au Liban qui ont fait des dizaines de morts, dont de nombreux enfants, selon des sources palestiniennes et libanaises. Dans la bande de Gaza, la défense civile palestinienne a fait état d'au moins 25 morts, dont 13 enfants, dans une frappe qui a visé une maison à Jabalia, dans le nord du territoire palestinien. La bâtisse a été réduite en un amas de pierres, selon des témoins. Une autre frappe israélienne a touché une maison à Gazaville, également dans le nord, faisant 5 morts, selon la défense civile. Dans l'est du Liban, au moins 12 personnes ont été tuées dans des frappes sur la région de Baalbek, 3 autres dans le village d'Al Kars et a indiqué le ministère libanais de la Santé. Et dans le sud, trois secouristes affiliés au Hezbollah ont été tués dans une frappe contre leur centre à Adloun, selon le ministère. Une frappe israélienne a aussi touché dimanche une région au nord de Beyrouth, tuant au moins 23 personnes, dont 7 enfants, dans la localité de Almat, selon la même source. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
Selon le gouvernement nigérian, la Banque africaine de l'énergie va démarrer ses activités le 28 janvier. Le ministre du pétrole a indiqué que le Nigeria a versé plus de 69 millions de dollars de contributions au capital de l'institution et 50% des fonds nécessaires au démarrage sont disponibles. Le gouvernement a fait appel à la contribution des pays membres afin de permettre le lancement dans les délais. L'Éthiopie va émettre des obligations domestiques de plus de 7 milliards de dollars pour régler les dettes d'entreprises publiques. Les fonds seront levés par le biais d'obligations souveraines d'une maturité de 10 ans. Une grande partie permettra de rembourser les prêts de la Banque commerciale d'Éthiopie à des sociétés d'État telles que celles régissant l'électricité, l'ingénierie ou le chemin de fer. Et la Banque commerciale du Kenya a connu un incident technique qui a donné l'occasion à certains clients de retirer 7,7 millions de dollars au-delà de leur solde autorisé. L'incident est survenu entre le 11 et le 31 octobre. Des comptes d'épargne pour l'accès rapide au crédit ont été particulièrement exposés. Certains utilisateurs ont pu retirer jusqu'à 3 fois le montant de leurs économies. KCB va faire appel à des sociétés de recouvrement pour récupérer les fonds indûment retirés.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Oumpatine. Salut Élisée.
Oui, bonjour Mouhamadou et bonjour à tous.
En football, le Cameroun déjà qualifié prépare ses 2 derniers matchs des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, avec les 2 derniers matchs des éliminatoires et le sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, a dévoilé hier dimanche sa liste de 26 joueurs pour affronter la Namibie et le Zimbabwe. Bien que les Lions Indomptables soient déjà qualifiés pour la phase finale de cette CAN de 2025, le technicien belge est revenu en conférence de presse sur la mise à l'écart de son premier assistant, Joachim Mununga, qui ne figurait pas sur les feuilles de match. Une situation, se rappelle, qu'il avait obligé à mettre en menace sa démission. Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, au micro de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Non, c'est pas moi qui décide. Moi, je décide toujours que mon assistant primaire est sur le banc. Si c'est pas, il y a des raisons pour ça. Mais c'est pas des raisons que je pense que je ne veux pas. Alors, on travaille maintenant avec Fekato ensemble. Je pense pas que ça peut arriver. Si encore ça va arriver, ça veut dire que la collaboration qu'on a avec Fekato n'est pas bien. Alors, j'ai pas de doute que Joachim va être à côté de moi sur le monde.
Parlons maintenant de la suite de la première journée de la Ligue des champions féminines de la CAF au Maroc.
Et mauvais départ pour l'équipe championne en titre. Les Mamelodi Sundowns battus 1-0 par les Égyptiennes de FC Massar. Belle entame en revanche. Des Nigérians d'Edo Queens qui ont pris en même temps la tête du groupe A grâce à leur succès 3-0 sur les Éthiopiennes de Commercial Bank. Même score en faveur du club hôte. Asfar qui a dominé 3-0 les Sénégalaises des Aigles de la Médina. Les filles militaires de Rabat partagent la tête de la poule B avec les Congolaises du TP Mazembe, tombeuses 2-0 des Sud-Africaines de Cape University of Western.
On connaît les 2 premiers qualifiés pour la phase finale de la Basketball Africa League.
Tout à fait. 2 clubs de la division Ouest au thème du tournoi de l'élite 16 qui a eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Stade Malien et d'Al Ahly Tripoli. Le club de Bamako a décroché sa qualification après avoir largement dominé 80-57 les Camerounais de la Kadji Sport Academy. Plus difficile pour la formation libyenne qui a battu au bout du suspense les Ivoiriens d'ABC Fighters 80-67. Place désormais à la division S qui se déroulera du 14 au 19 novembre prochain à Johannesburg en Afrique du Sud et qui regroupera 8 clubs répartis dans 2 groupes de 4.
Info rugby pour finir, l'Afrique du Sud a entamé hier en Europe sa tournée d'automne de test match.
Oui, les champions du monde 2023 et vainqueurs du rugby championship cet été ont bien débuté leur tournée par une victoire toute en sénérité contre l'Écosse 32 à 15. Pour la suite, les Springboks affronteront l'Angleterre puis le pays de Galles.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumpa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, menace de retirer ses troupes de la force mixte multinationale qui regroupe quatre pays de la sous-région, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Il dénonce un manque de réaction de ses pays voisins suite à l'attaque de la base militaire à Barkaram, située dans les îles du lac Tchad, qui a fait une quarantaine de morts du côté de l'armée tchadienne. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Il n'y a pas de solidarité pour laquelle cette force multinationale a été créée. Donc s'il n'y a pas de solidarité, elle n'a aucun intérêt pour notre pays.
Le général Mahamat Idriss Déby Itno dit ne pas comprendre que le Tchad, qui s'est engagé dans la lutte contre le terrorisme depuis 2013 au Mali, au Niger, au Nigeria et dans l'espace du G5 Sahel, soit attaqué et qu'aucun de ces pays voisins n'exprime sa solidarité.
À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats pour aller les soutenir. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Pourquoi nous devons toujours sacrifier nos enfants pour les autres et en retour, nous n'avons pas de soutien. Nous envoyons nos enfants, ils meurent là-bas et l'ennemi que nous frappons dans les pays voisins revient au lac Tchad. Donc il est temps que l'armée se concentre sur la protection de nos citoyens et de notre territoire.
Mais pour certains observateurs, l'époque où ces pays voisins entretenaient de bonnes relations avec l'armée tchadienne et la France qui étaient impliquées dans les actions militaires contre les terroristes est déjà révolue. Avec l'avènement des régimes militaires dans certains pays de la sous-région ayant partagé le lac Tchad, les données ont changé, a déclaré Dr. Ahmad Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémiste. Pour lui, le retrait des troupes tchadiennes de la force mixte multinationale aura des conséquences.
Le retrait du Tchad de la coalition pourrait être bénéfique au terrorisme qui profitera de cette division pour se développer et s'implanter non seulement dans le bassin de la Tchad, mais également dans l'espace du G5 Sahel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une coordination entre l'État islamique dans le bassin du lac Tchad et l'État islamique dans l'espace du G5 Sahel. Et le mieux est de se ressaisir et de trouver une solution pour continuer à mener la lutte dans un cadre stratégique régional. Et puis, il ne faut pas perdre de vue la nécessité du processus de DDRR, une option préventive tant négligée par les États africains.
Les organisations de la société civile tchadienne estiment que la solution est collective et qu'aucun pays ne peut régler tout seul la question du terrorisme. Adoum Soumaïn Adoum est l'un des porte-parole de la coalition citoyenne Wakitama.
À supposer que le Tchad réussit à écraser Boko Haram et qu'il le chasse vers le Nigeria, qu'est-ce qui expliquerait qu'il ne revienne plus au Tchad? Rien. Dans tous les cas, c'est des troupes, des guérillas qui circulent dans la région et qui vont d'un coin à un autre par-dessus la frontière. Donc il y a un problème partout. Ce qui fait qu'il faut bien réfléchir sur la nécessité du retrait. Je crois que le chef de l'État ne doit pas prendre une décision sur un coup de tête. Il y a, c'est vrai, une menace, il y a des soldats qui sont morts, mais il faut voir le long terme. Comment est-ce que la zone puisse être sécurisée pour que la menace ne pèse sur aucun des quatre États?
Après avoir passé près de deux semaines dans la région du lac Tchad, où il a dirigé personnellement l'opération Askanit, le général Mahamat Idriss Déby Itno a regagné N'Djamena ce week-end. André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Après le Tchad, allons maintenant au Gabon où l'heure est à la campagne pour le référendum constitutionnel du 16 novembre, un scrutin test avant la présidentielle d'août 2025, date à laquelle les militaires, auteurs du putsch contre le régime d'Ali Bongo, avaient promis de rendre le pouvoir à un régime civil. Dans un bref discours à la nation, le général président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé à un vote massif des populations pour faire échec à l'abstention. Les partisans du oui et du non au texte dispose désormais de moins d'une semaine pour convaincre les indécis. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Depuis plusieurs semaines, Libreville est inondée de panneaux publicitaires incitant les populations à une participation massive au référendum. Une campagne électorale intensifiée sur le terrain par une propagande des associations favorables au projet de nouvelle constitution. Jeff Obamazu, leader de la plateforme Éveille-toi Gabon.
Nous sommes appelés à décider d'un nouveau Gabon. Donc, il n'est plus question pour nous de rester dans nos tours d'ivoire. C'est une invite nationale. Nous devons nous battre pour que le 8 l'emporte à 95%.
Malgré les actions de sensibilisation en faveur du nouveau texte, Abdoul Kader a encore du mal à se décider. Il est étudiant au département des sciences de l'information et de la communication à l'université Omar Bongo de Libreville.
Je dis que les choses sont allées un peu trop vite. Il y a des articles qui sont naturellement à revoir. Il y a certains sont intangibles. Il faut qu'on prenne un peu beaucoup plus de temps pour épiloguer là-dessus et je crois que la sanction serait de mise.
Donc vous allez vous abstenir?
Effectivement.
Pour plusieurs observateurs, l'abstention reste la grande inconnue de ce référendum du 16 novembre. Étudiant lui aussi, Wendin Asoko dit non à la nouvelle constitution.
Il y a des points qui me reviennent qui ne me plaisent pas. Donc, le mandat à 7 ans du président de la République, pour moi, on a un très bon exemple qui est les États-Unis d'Amérique, qui est un grand pays mondialement qui a un mandat de 4 ans. Ce n'est pas parce qu'on a 4 ans de mandat qu'on ne peut pas réaliser. Lorsqu'on veut réaliser, ce n'est pas avoir beaucoup de temps, mais c'est avoir la volonté.
Afin de comprendre la guerre de posture autour de la loi fondamentale soumise à référendum au Gabon, nous avons posé la question à Lysiane Neyer. Elle est analyste politique.
Si nous prenons le cas de la Cour constitutionnelle, nous avons d'abord eu un communiqué du CTRI qui appelait à la dissolution de celle-ci. Ensuite, un rétropédalage pour pouvoir aboutir à une prestation de serment du président de la transition. Et ensuite, la nomination d'un nouveau bureau de la Cour constitutionnelle. Sauf qu'à ce jour, nous n'avons pas eu un rapport de cette entité nous disant voilà ce qui a amené à ce que cette Cour constitutionnelle soit finalement une tour de Pise.
Étape clé du processus de transition en cours au Gabon. Le référendum constitutionnel de cette fin de semaine constitue un défi majeur pour le comité militaire au pouvoir à Libreville avant la présidentielle d'août 2025. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, un parti de l'opposition porte plainte contre 3 membres du Conseil constitutionnel, dont le président de la dite institution chargé du contentieux électoral et de la proclamation des résultats des élections. Selon une plainte déposée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, les 3 membres du Conseil doivent répondre d'une procédure pénale pour empiétement sur le pouvoir législatif, coalition contre les lois et le fonctionnement d'un service. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Au Cameroun, on a fait croire aux citoyens, population, qu'on peut tout se permettre quand on est en position de pouvoir. Non.
Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, explique les raisons pour lesquelles son parti a porté plainte contre 3 membres du Conseil constitutionnel.
Oui, un président du Conseil constitutionnel qui se retrouve dans une réunion partisane où on appelle à une candidature d'un militant d'un parti politique fut-il président de la République, ça prête à équivoque. Par exemple, il y a M. Emmanuel Mbonde qui est jusqu'à jour membre du bureau politique du RDPC. Il n'a jamais démissionné. Le professeur Minkouaché, qui est pourtant un brillant juriste, qui accepte d'occuper les fonctions de membre de du CSO, je crois, au truc olympique.
D'après le texte fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, ces derniers ne doivent prendre aucune position publique et sont soumis au régime des incompatibilités. L'analyste Aristide Mono explique.
Le fait de poser publiquement ce problème d'incompatibilité et d'éthique politique, nous sommes là dans la médiatisation du problème afin que l'opinion nationale et internationale soit mieux édifiée sur les manœuvres électorales qui travaillent le champ politique camerounais. Les procédures engagées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de notre point de vue, c'est d'asséner aussi un coup politique à l'adversaire qu'est le RDPC en essayant donc de le décrédibiliser à partir des institutions qu'il a totalement phagocytés ou qui sont sous sa botte.
Sur un plateau de télévision, le secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Ouna, a réagi sur la question de l'impartialité des hauts cadres du parti au pouvoir désigné par le président de la République afin d'organiser et d'arbitrer le processus électoral.
Ce n'est pas parce que c'est lui qui a nommé qu'ils sont dépendants de lui. C'est cette nomination justement qui leur donne leur indépendance, parce qu'ils sont protégés. Il ne peut pas les démettre. Il ne peut rien leur faire durant leur mandat.
Le MRC espère la désignation d'un juge d'instruction sur l'affaire, mais demande d'ores et déjà que les trois membres du Conseil constitutionnel se mettent en congé de leurs activités jusqu'à la fin de la procédure pendante. Maurice Kamto, président du MRC.
Ce sont les énièmes plaintes que nous portons. Ça ne prospère pas toujours. Nous respectons le temps de la justice, mais pas le temps de notre temps. La justice, en fait, c'est l'instance qui arbitre entre les prétentions des citoyens et des institutions, y compris de l'État même. Lorsque la justice elle-même jouera pleinement son rôle, croyez-moi, les choses iront nettement mieux dans ce pays.
En réaction, Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, a formellement démenti avoir pris part à une réunion partisane, mais plutôt aux assises de l'association de développement de son département d'origine. Il affirme dans un démenti servi à la chaîne de télévision privée Equinox, citation, qu'il s'est retiré après l'ouverture des travaux des dites assises, fin de citation. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, une compétition a réuni les meilleurs chocolatiers ivoiriens et ghanéens. Une dizaine au total ont pris part à ce concours qui vise à promouvoir la fabrication artisanale du chocolat. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo, est allé à leur rencontre ce week-end, suivant son reportage.
Ils étaient une dizaine au total à prendre part à la compétition. Après 2 jours de confrontation, 3 chocolatiers ivoiriens ont été reconnus vainqueurs de la World Chocolat Initiative 2024. Un événement qui vise à faire la promotion de la fabrication artisanale du chocolat africain. Alain Cablan-Porquet, promoteur de la World Chocolat Initiative.
Aujourd'hui, nous souhaitons en Côte d'Ivoire faire mieux, pas moins de cacao, mais mieux de cacao. Un cacao plus savoureux, qui sent bon, qui est sucré, de qualité d'exception. Et puis, partager nos savoir-faire avec toute la nation ivoirienne. Pour faire un meilleur chocolat. L'année dernière, nous avions eu les États-Unis comme jury et la Hollande, le Brésil. Cette année, on a eu la chance d'avoir l'Équateur et le Pérou, donc ils sont d'où vient notre cacao, ça vient d'Amérique latine. Donc ils nous ont aidés vers la dimension cacao non fermenté.
Des chocolatiers ghanéens étaient aussi de la partie, mais ils n'ont pas pu remporter la mise. Pour les lauréats de la compétition, cette consécration est le résultat d'un travail acharné et constant. Médéra Sinago, lauréate du concours World Initiative Chocolat.
Vraiment, nous sommes vraiment contentes d'avoir participé à l'événement et d'avoir remporté aussi les 2 prix. Voilà, nous sommes contentes, c'est tout. Bon, comme c'est un concours, mais on s'attendait à ça parce qu'on sait qu'on fait du bon chocolat. Bon, notre chocolat, sa particularité est que notre chocolat est un chocolat cru. Il n'est pas torréfié et aucun produit chimique. Seulement de la cassonade.
L'organisation du concours vise également à élever le profil de la Côte d'Ivoire en tant que destination de choix pour les amateurs et les professionnels du chocolat. Et cette initiative prend déjà de l'ampleur. Christine Hard, membre du jury.
Tout d'abord, j'aimerais dire que pour avoir jugé le chocolat ivoirien pendant des années, j'aimerais dire félicitations. Car ces chocolats que nous avons goûtés aujourd'hui sont l'un des meilleurs qui n'ait jamais été présenté. Félicitations à tous les artisans ici présents.
La World Chocolate Initiative en est à sa 2e édition cette année. Les promoteurs du concours souhaitent élargir cette fois-ci la compétition à d'autres pays africains qui fabriquent également du chocolat. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Koumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.